Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis d'accueillir Sophie Gelucca.
Bonsoir.
Bienvenue Sophie.
Merci.
Pour deux livres parus simultanément aux éditions de la Contre-Allée qui suivent le travail de Sophie Gelucca depuis quelques années maintenant et quelques livres. Deux livres de statut a priori différents, l'un étant de poésie et l'autre son premier roman. Et de cela nous pourrons parler évidemment, de cette différence de statut, parce que Sophie Gelucca est depuis, je dirais au bas mot, 20 ans, poète publié chez plein de revues et de petites maisons au nom charmant, comme le Des Bleus et des petites maisons, quoi, de la micro-édition de poésie pendant longtemps. Et c'est vrai que les éditions La Contre-Allée, qui sont par ailleurs un éditeur qui concerne Effraction très souvent, parce que la littérature et le fait social l'intéressent de plein de façons, et le réel, les éditions La Contre-Allée ont... décidé de faire œuvre d'anthologie aussi, parce que ce recueil, On est les gens, est une forme de petite anthologie, enfin c'est un recueil, comme on fait en poésie, de cette poésie que pratique Sophie Gelucca, qui, pour la grande partie d'entre elles, alors c'est pas exclusif, a la particularité de se situer dans ce qu'on nomme parfois de la poésie documentaire. Pas exclusivement, encore une fois, mais tout de même, Sophie a pu enquêter aussi bien... aller sur place, disons, et capter des propos, des faits et des observations en procès d'assises pour un livre qui s'appelait « Témoin », et que enquêter dans des bibliothèques départementales sur le métier des bibliothécaires. Et puis, comme dans celui-ci, aller voir toutes sortes de gens pour recueillir leurs paroles selon ce qu'elles lui produisent, et on va s'y intéresser ensemble, selon ce qu'elle lui provoque et selon ce qu'elle peut produire en poésie aussi. Et ça, c'est une question de la poésie documentaire, hein, c'est-à-dire à quel endroit le documentaire fait poésie, à quel endroit la poésie sert le documentaire aussi, notre regard sur le monde. Et puis, ce qui titre la rencontre, c'est l'événement de la parution de ce premier roman, donc une primo-romancière qui publie depuis bien longtemps et qui ne s'était pas posé la question de devenir romancière parce que c'est comme ça qu'on est plus visible dans le monde de la littérature. Mais ce roman présidait une nécessité profonde qui, par endroits, rejoint hein, évidemment les préoccupations de la poésie documentaire que j'évoquais, du recueil « On est les gens », par exemple, mais qui se devait de le faire différemment. Ce livre s'appelle Mississippi et son sous-titre nous intéresse aussi et fait lien parce que il s'appelle Mississippi, la geste des ordinaires. Donc dès le sous-titre, les deux titres se rejoignent, se font écho. Il y a d'autres endroits d'écho, on remarquera, dans le recueil On est les gens, une Rebecca, dont le portrait vient comme compléter ou faire écho à l'un des nombreux personnages de cette fresque, Mississippi, qui est une tentative de généalogie fleuve. Alors, il y a un arbre généalogique au début, hein, qui essaie de ranger les choses comme on fait avec un arbre généalogique, comme un tableau, vous voyez, c'est au début du livre. On a des indices qui permettent de se référer mais qui n'empêche pas absolument de se perdre avec délice dans les eaux, parce que la fonction du livre n'est pas de raconter les choses dans l'ordre, même s'il y a un ordre chronologique, c'est plutôt de faire une évocation. Le terme de lyrisme a été employé, alors bien qu'il ne corresponde pas à ton champ poétique, il y a une forme de lyrisme à ce moment-là, et le terme de geste le dit aussi, de faire un chant et de donner à ces voix souvent tues, à ces invisibles de l'histoire, parfois victimes de l'histoire, avec sa grande hache, de leur donner voix au plus haut sens du terme. Et c'est pour ça que le terme geste est là. Et pour ça, il fallait certainement un dispositif textuel différent. Je vous propose, durant cette rencontre, de procéder un petit peu par ordre, on va faire des liens aussi, et puisque j'ai présenté d'abord Sophie comme poète, de commencer par un petit peu de lecture d'un extrait du recueil On est les gens, d'où nous partirons pour discuter, pour aller vers Mississippi, qui lui-même constitue une sorte d'avancée dans son travail. Merci d'avoir accepté un peu au pied levé de nous lire des textes, Sophie.
Alors, l'extrait que je vais vous lire s'intitule « Angle mort ». Je vais vous lire le début de ce texte. Alors, on parle de poésie, mais bon, c'est un texte en prose. Hein. C'est vous l'écrivain. C'est vous pour les ateliers. Vous débarquez pour nous faire la leçon. Combien on vous paie pour ça? Ils vous donnent combien pour leur bonne conscience et la vôtre de bonne conscience? Oh, je vous connais, faut pas croire. On lit, on s'informe. On n'est pas aussi démunis que vous l'imaginez. Je dis pas ça pour vous, mais pour les autres, là-haut, là-bas, on sait plus bien où d'ailleurs. Combien ils nous appellent déjà? Ah oui, les publics éloignés, les publics empêchés. Avant, on disait les publics précaires ou en difficulté. Arrêtez de saucissonner le public. On est des gens, juste des gens. Le pire, c'est que ça rentre dans la tête de tout le monde, même des gens comme vous, des gens qui sont censés penser aux mots. Ça nous ferait bien marrer si ça nous faisait pas rager. Vous savez comment on s'appelle entre nous dans la cité? Les angles morts, à cause de la rue principale, la rue d'Angleterre, et à cause de ce logo, vous savez, qu'on voit à l'arrière des bus et des camions. Il y a quelqu'un de ces gamins, sans doute, qui s'est amusé à faire un énorme graphe sur le mur de la mairie annexe. Ce dessin, donc, on voit un poids lourd qui heurte un vélo avec la représentation d'un boom du choc. Attention, angle mort. Du coup, on s'est dit que c'était ça, que c'était nous. Les angles morts, pire que des invisibles. Ah oui, ça, vous aimez bien aussi. Les minorités visibles ou les invisibles de la société. C'est pire, angle mort, parce que non seulement on ne nous voit pas, mais en plus, si on essaie de bouger, d'avancer, boum, on se prend un foutu camion. Et ce ne sera pas de sa faute. Retenez bien ça. Angle mort, tout attaché, c'est nous. Et tous les autres comme nous. Voyez, on manque pas d'imagination. Non, je ne viendrai pas à votre foutu atelier. C'est du vent, tout ça. J'ai déjà essayé. Des années qu'on nous fait venir des gens de théâtre, des danseurs, des musiciens. On en a eu. Et qu'est-ce que ça a changé pour nous? Vous venez quelques heures, vous repartez. Et après, vous pensez que vous allez transformer nos vies? Mais vous faites partie du système. Vous êtes le système. Vous l'entretenez et il vous entretient. Vous êtes comme toutes ces institutions. Vous, vous nourrissez de nous, des millions, tout ça coûte des millions. Vous, ça vous fait un peu de fric pour continuer à danser, à écrire, à chanter. Vous êtes des sortes de fous du roi, sa caution. Sauf qu'en plus, on vous utilise, vous le savez ça qu'on vous utilise, que vous brassez du vide, dossier après dossier, artiste après artiste. Vous êtes interchangeable. Vous remplissez une ligne d'un budget pour la culture à peu de frais. Vous collez une ligne publics empêchés et vous touchez plus de subventions. Vous y trouvez votre compte, comme ça. On ne dira pas qu'on laisse à l'abandon les cités. Je m'arrête là.
Merci Sophie. Ce texte traite d'une réalité qui est aussi la tienne. Je tutoie Sophie parce qu'on est tous les deux Nantais, on se croise depuis assez longtemps, donc on aura du mal à se vouvoyer longtemps. Donc je précise. Et donc Sophie, tu animes des ateliers d'écriture? Ouais. Dans toutes sortes de contextes, y compris auprès de ces publics dits empêchés, et tu le fais avec sincérité et envie, et aussi pour vivre. Et c'est ce que pointe en se retournant ce texte-là. C'est là où il m'a énormément interloqué, déjà, en le lisant. C'est-à-dire que c'est d'une grande violence à l'encontre de celle qui serait la rapporteuse du propos. Est-ce que, donc plutôt que de te demander, mais même si tu peux y répondre comme ça, si c'est un propos qui, tel quel, t'a été ramené, je vais te poser la question de la fabrique. Ce type de voix, est-ce que c'est une voix générique? Est-ce que c'est une voix individuelle? Ce type de voix, comment tu la recueilles? C'est pas forcément toujours le même cas de figure. Hein. D'ailleurs, le recueil, il y a différents types de textes. Il y a des propos de gilets jaunes, comme ça, à nu, très court. Et puis, il y a des poèmes d'impression du quotidien en regardant des gens, avec des chansons en générique. Il y a le récit intime de la traversée d'une maladie qui vient conclure tout ça. On en parlera un peu plus tard. Mais vraiment sur cette parole et sur le « on est les gens » qui est textuellement cité au début de celui-là. Comment tu procèdes? Évidemment, peut-être d'où ça vient? Comment ça s'est mis en place, cette histoire d'être non pas envoyé spécial, mais poète qui fait avec la parole des autres, des gens?
C'est né d'une colère et d'une indignation, puisque Souvent, quand on est auteur ou autrice, on est amené à faire des ateliers d'écriture. On est amené parfois sur des territoires très compliqués. Et on sent bien que parfois, ça remplit quelque chose, ça remplit des vides, ça remplit des manques. Et donc, c'était, de mon point de vue, pour moi, en tous les cas, à un moment où je me posais la question de notre utilité. Parce qu'on n'est pas assistant social, on n'est pas psychologue, on n'est pas éducateur ou éducatrice, on est juste auteur ou autrice, et on nous demande parfois énormément de choses. Donc il y avait ce point de vue-là pour moi. Et puis évidemment, la voix qu'on entend de cette personne, ce sont des choses que j'ai pu entendre et qui étaient tout à fait légitimes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait là. Donc du coup, c'est une sorte de recomposition. C'est des choses que j'ai entendues, que j'ai pu recouper, et c'est pas forcément des notes, c'est venu, la voix est venue comme ça, une sorte de colère qui montait. Donc c'est un texte de quelques pages sans, avec juste des virgules, il n'y a pas de point, sauf à la fin. Et voilà, c'était une manière de recomposer les différentes voix que j'ai pu entendre, et puis de peut-être d'utiliser un peu cette voix pour pouvoir dire aussi ce que moi je pensais un peu de tout ce système qui nous met parfois un petit peu mal à l'aise.
Et donc le comment ça se fait, comment ça se retourne, je pense à un autre texte dans ce livre qui est frappant à cet endroit-là, c'est-à-dire tu vas chercher la violence de quelqu'un qui essaie de comprendre d'où vient sa violence, qui a agressé une femme voilée. Il ne parle pas du même point de vue politique, du même que toi. Il y a là un chemin qui, par la voix, je ne sais pas, tente aussi de comprendre l'autre, enfin de reconstituant cette voix, faire un chemin intellectuel vers ce qui n'est pas ta pensée à toi.
C'est se mettre à la place de l'autre. C'est parfois donner la parole à des personnes dont on est pas, avec qui on n'est pas forcément d'accord. Je pense par exemple au portrait que je fais des personnes qui étaient sur les ronds-points, les gilets jaunes. J'adhère pas forcément à toutes leurs idées, mais j'ai le sentiment que mon rôle, c'est de pouvoir leur donner voix aux, comme on dit, aux invisibles, donc que j'adhère ou pas à leurs idées. Et le texte dont tu parlais, c'est un texte d'imagination, totalement imaginé, où c'est une commande d'écriture qui finalement n'a pas eu lieu de publication finalement pour ce texte, mais j'ai imaginé quelqu'un qui pétait les plombs, qui se retrouve face à un miroir et qui a eu des propos racistes dans un supermarché. Et ce sont des choses qu'on peut entendre aussi autour de nous, en fait. Hein. Et c'est d'essayer d'apporter un petit peu de nuance et de complexité au moment où on est dans une époque où c'est ou tout blanc, tout noir, où il faut dire être pour ou contre. Donc, on sent bien qu'on est dans des situations très radicales. Et moi, j'ai envie juste d'apporter un petit peu de nuance et d'empathie aussi. Parce que même si je ne suis pas d'accord avec la personne que j'entends en face de moi, c'est une personne. Et comment je rapporte son propos, et comment j'essaye de nuancer les choses, et comment lui aussi ou elle aussi a droit à voix au chapitre.
Et alors, te poser la question du point de vue du Candide, c'est-à-dire que je pense que c'est de la poésie, j'ai déclaré que c'était de la poésie, mais j'imagine qu'elle a pu être retournée dans le champ poétique aussi. En quoi ça fait poésie ? La poésie documentaire, les procès d'assises, des images extrêmement dures, des propos acérés comme ça. Et te demander en quoi ça fait poésie, c'est, je voudrais le redoubler du comment, en fait. Et aller chercher plus loin dans le processus. Comment c'est venu, vraiment, dans ta démarche de poète? Comment ça s'est instauré et d'où ça a procédé?
Waouh.
Archéologie, mais après, on va aller chercher plus loin avec Mississippi. Donc, on commence à descendre.
Alors, déjà, peut-être une chose, c'est que je ne me suis jamais sentie poète. Je n'ai jamais eu le sentiment d'écrire de la poésie. Je dis toujours que j'écris simplement. Donc après, c'est lorsque je propose des textes, je me retrouve dans les cases poésie, mais j'écris des textes simplement. Donc pour Mississippi, je me sens poète, c'est le gros paradoxe, et pour des textes qu'on a pu entendre dans On est les gens, j'écris des fragments, des bouts de textes. Est-ce que ça fait poésie? Je ne sais pas vraiment à moi de le dire. Peut-être que c'est le travail de la langue qui peut dire que ça fait poésie. Alors c'est vrai que c'est un endroit un peu particulier. Quand je suis allée dans un tribunal suivre des procès et d'en avoir fait des textes, C'est une forme de poésie, et, mais peut-être parce qu'on a l'insentiment que quand on parle de poésie, on devrait juste parler de la nature, de l'environnement, de choses très douces, de l'amour. Ce sont des clichés, hein, évidemment. Mais alors qu'en fait, en poésie contemporaine, on peut tout écrire. Donc je me retrouve dans ce champ-là, mais sans l'avoir vraiment... sans l'avoir cherché, sans l'avoir voulu.
Par ailleurs, la poésie documentaire, elle a aussi une histoire. Est-ce que cette histoire te concerne? Je pense à un grand nom, celui de Reznikov.
Oui.
Avec Holocauste. C'est quelque chose sans doute que tu as lu et qui dit quelque chose aussi de... Enfin, c'est le moyen aussi qu'il a trouvé pour raconter ça. Enfin, c'est-à-dire, a priori, c'est... Enfin, je te laisse en parler puisque tu l'as
oui,
lu.
Oui, Charles Reznikov. Je ne sais pas si vous connaissez ce poète américain du groupe des objectivistes dans les années 30, je crois que c'est ça. Un peu après aussi. Hein. Enfin, ça démarrait à peu près là, mais largement Lurembert, après. Forcément. Pardon. Et donc, en fait, Charles Reznikov a, par exemple, travaillé à partir d'archives. Et ça, c'est une démarche qui m'intéresse, que j'ai toujours utilisée après dans mon travail. Et Reznikov, par exemple, a écrit sur des procès à partir d'archives écrites, donc, aux États-Unis, pour essayer de rendre compte de la société américaine. Et donc il a lu et lu des procès, il a procédé par montage en fait, hein, et donc il a écrit des textes qu'on qualifie de textes poétiques, hein, quelque chose d'assez énorme, ça s'appelle témoignage. Et il a aussi écrit à partir des procès de Nuremberg un texte qui s'appelle Holocauste, qui est assez court, très dense, et qui produit un effet assez vertigineux quand on les lit. Parce que ce sont des propos rapportés, ce sont juste des faits. Et Charles Reznikov est vraiment dans cette posture de nommer, toujours nommer, et de ne pas forcément... de laisser passer de l'émotion, mais ce n'est pas l'objet premier de son écriture. Et donc, je pense que ça me parle beaucoup. J'aime assez l'écriture photographique. Donc, je décris des choses, je rapporte des faits de manière, on va dire, objective. Mais le travail d'écriture fait que, sans doute, il y a une émotion qui passe, mais que ce n'est pas moi qui donne cette émotion. C'est le lecteur ou la lectrice qui, en se heurtant au texte ou en se l'appropriant, a accès à cette émotion.
Il y a dans le recueil On est les gens, plusieurs textes, comme je l'ai dit, par principe, c'est un recueil. Et il y a une traversée beaucoup plus... une épopée beaucoup plus intime à la fin, le récit d'une traversée de maladie que tu as traversée donc. Et mettre les deux ensemble me semble assez significatif de quelque chose. J'ai remarqué que dans ton travail, il y a par exemple un livre qui s'appelle Assommons les poètes, donc sur la condition de vie des écrivains. Et puis dans le même temps, il y avait à peu près au même moment, il y a eu un livre, je le disais, sur une enquête sur les bibliothécaires. D'aller chercher à différents endroits du monde, de faire le pendant. Et de mettre ces deux choses a priori différentes, hein, de statuts différents, ça peut faire quand même un recueil de l'intimité autour du thème de la maladie et un recueil de voix extérieures, c'est une volonté de les mettre ensemble. Et cette volonté-là me semble, ma théorie me fait me dire qu'elle a paradoxalement à voir avec le scrupule, c'est-à-dire de te mettre en jeu autant que les gens que tu vas chercher. C'est-à-dire, c'est une observation de l'intime, d'essayer de se regarder comme objet d'étude, si j'ose dire, hein, même si ce n'est pas scientifique en soi, et de mettre ça en regard avec la parole des autres, pour ne pas faire ou un texte nombriliste, ou un texte en surplomb.
Oui, c'est très très juste, mais d'où le titre « On est les gens ». Donc, je suis les gens.
C'est ça.
En fait, c'est tout à fait ça. C'est être parmi. Et je pense que c'est quelque chose que j'ai pas mal... Enfin, que j'ai travaillé aussi dans Témoins, par exemple, où je vais donc dans des salles d'audience et je vais suivre des procès. Je rencontre donc de procès. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me rends compte que ma propre histoire va percuter tous ces prévenus. Je me reviens le fait que mon père est passé et a eu maille à partir avec la justice. Et donc, du coup, j'intègre ce récit intime avec quelque chose de collectif, puisque ça dit aussi de notre société. Hein, ce qui se passe dans les tribunaux, c'est comme une photographie de ce qui se passe aujourd'hui. Et donc, il y a toujours eu ce truc, en fait, d'aller-retour entre ma vie personnelle, alors autobiographie, autofiction, et puis quelque chose de collectif. Et je ne sais pas, c'est une forme de scrupule, j'aimerais bien, je creuse ça, mais...
Je ne sais pas, c'est juste une, voilà, c'est une hypothèse, mais forcément, il y a une question de scrupule à un moment quand on utilise la parole des gens, donc je me dis de mettre les deux ensemble est une décision aussi.
Ben, peut-être que c'est ma posture en tant qu'autrice, c'est-à-dire que j'ai peut-être scrupule à être autrice du fait de par rapport au milieu d'où je viens. Je viens d'un milieu populaire, d'un milieu ouvrier, où un écrivain, une écrivaine, enfin, c'est quelque chose qui est complètement hors des clous et absolument inimaginable. Et donc, je pense que la question de la légitimité a été une vraie difficulté jusqu'à encore aujourd'hui, même si ça fait 20 ans que, voilà, que je publie. Et donc, j'ai toujours été sur cette ligne de crête et parfois, je tombe d'un côté et parfois d'un autre côté et j'essaie de trouver le juste milieu. Et donc, je pense que la manière que j'ai trouvé d'être dans le milieu de l'écriture, c'est peut-être d'être une sorte de trait d'union entre le milieu d'où je viens, les marges que je rapporte dans mes textes, et puis le milieu, on va dire, littéraire. Donc c'est ce fil un peu fragile.
Le milieu dont on vient. Et donc Mississippi, paru à la rentrée littéraire dernière, est ton premier roman. Et comme je l'avançais tout à l'heure, est-ce qu'il fallait un roman ? En tout cas, il fallait plus d'ampleur, plus de pages, plus de signes. Déjà, objectivement, c'est un plus long texte que d'autres. Et puis, qu'il fasse épopée, moi je le pense aussi du point de vue de la phrase. Et c'est là où l'idée de lyrisme commence. Mississippi, c'est une histoire familiale reconfigurée, on va dire, et qui ne peut pas s'expliquer sans passer par la phrase. C'est pour ça que je te propose ce deuxième moment de lecture pour entrer dans Mississippi, dont tu disais toi-même qu'il est écrit tout autant en poète que les autres, et je pense qu'on va l'entendre, et pour le situer depuis le geste d'écriture.
Je vais commencer par le début. 1839. À quoi ça ressemble un homme du 19e siècle ? Comment ça bouge dans son corps ? Comment ça épouse le paysage ? Comment il s'arrange, ce paysan, de ses sabots, de son chapeau large bord, de ses vêtements raidis par l'épaisseur de tissu et de la crasse ? Et celui-là, debout, chapeau à la main, colère rentrée ? Non, pas de colère, pas encore. D'abord de l'incompréhension, du désarroi. Impatient, c'est son prénom, et désarmé sur le moment. Impatient a le corps debout, mais immobile, dans la moitié du paysage. Parce qu'à cet instant, une partie de son corps est dans la pièce et l'autre sur le pas de la porte dehors. Quelque chose comme ça qui se dessine dans le paysage, un homme à demi, ou que l'on se place, dehors ou dedans, et comment s'étonner dès lors que la ville porte le nom d'Ormois. Impatient, on a le souffle coupé. Du proche paysage, il ne voit plus rien, juste un flot de lumière. Pied dehors, pied dedans, le contre-jour, mais qu'importe cette sorte d'aveuglement. Il ne voit pas clair de sa vie qui lui échappe, là, en une fraction de seconde, devant l'homme derrière le bureau de la maison commune, Julien Henriot. Et Julien Henriot a dit « Je ne te vois pas ». Et impatient était bel et bien là pourtant, mais Julien Henriot a dit « Non, non impatient ». Tu n'existes pas. C'est ce qu'entend alors impatient. Tu n'existes pas. Je ne te vois pas. C'est ce que prononce exactement Julien Henriot. Ce sont ces mots. Alors impatient a marché vers la sortie, juste prendre l'air et le feu du dehors, s'animer, animer le corps, et surtout s'éloigner de la langue fourchue de Julien Henriot, de la bouche qui lit à voix haute les mots que lui, impatient, lit à peine. Mais Julien Henriot a tourné les pages et n'a pas lu ce qu'impatient attendait. Impatient Lansard, né le 19 septembre 1808 à Ormois. Bel et bien là pourtant. Un paysan, un homme, debout. Il est né en ce pays, impatient, il le sait. Il l'a porté en lui-même, loin. Ses plaines par cœur, ses forêts jusqu'à la gueule. Comment il tient impatient dans ce paysage ? Par la résistance. Il a résisté à ce pays, à sa famille. Il a résisté aux vignes, aux plaines, aux forêts, à la rivière, à la grand-rue. Mais impatient est revenu. Et à présent, c'est tout le pays qui lui résiste, qui ne cède pas à sa demande d'homme, exister, ici.
Merci. Alors, comment ça bouge un homme du 19e siècle ? Tout commence par une question. Avant, il y a un titre, mais on y reviendra un peu plus tard. Hein. Il y a des titres de partie, et celui-ci, c'est « Nous désirons le monde ». On, nous, on y reviendra peut-être aussi. Là, nous sommes en 1839, et à quoi ça ressemble un homme du 19e siècle ? Et on l'a entendu, il y a un système de... Alors là, c'est des outils poétiques. Hein. Il y a un système de répétition d'un patient qui a besoin de se faire reconnaître à l'état civil. La scène, à la fois, on la décrypte peu à peu, parce qu'on est plongé dans un flot. Tu le lis très posément, mais il y a tout un travail de ponctuation extrêmement étonnant, et notamment d'usage de la parenthèse. Et j'aimerais savoir encore une fois comment tu as procédé. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un impatient ? Est-ce qu'il y a une source ? Est-ce qu'il y a une source d'état civil ? Est-ce que ce problème à l'état civil s'est posé ? Est-ce que ce comment résulte d'une question que tu te poses et que tu essaies de résoudre par l'imaginaire dans l'écriture ? Quelle est la part de source et d'invention dès ce premier passage là, mais à l'échelle du livre ? Et ça permet aussi de raconter quel type de chantier ça a été.
Alors, c'était un travail généalogique, mais que j'ai fait il y a plusieurs années. Et dans mon histoire généalogique, alors pour dire les choses très rapidement, c'est un travail que j'ai fait à partir de ma grand-mère maternelle et de cette branche-là, en fait, qui était très mystérieuse, avec beaucoup d'absences, beaucoup de des questions de noms de famille qui n'apparaissaient pas, ou des noms qui ont été rapportés parce qu'il y avait adoption. Et c'est une histoire quand même qui... jusqu'à moi, en fait, hein, et même après encore, une sorte de reconnaissance et de non-reconnaissance qui était très compliquée. Et donc, j'avais remonté cette généalogie, j'avais constaté que, donc, depuis un patient, donc on est en 1800 et quelques, cette question du nom était déjà, apparaissait déjà. Et donc, cet impatient ne veut se marier et il n'existe pas sur les registres d'état civil, il n'a pas été déclaré. Et donc, c'est ce qui va être le fil de tout ce livre, de la question de la reconnaissance, la question de l'existence, qu'est-ce que c'est qu'une vie, qu'est-ce que c'est qu'un nom, qu'est-ce que c'est qu'une identité, qu'est-ce qu'on transmet de génération en génération, qu'est-ce qu'on croit ne pas transmettre et qui se transmet malgré tout. Donc voilà, c'était tout ce bagage un peu que j'avais envie de travailler en me disant que peut-être, en me laissant porter par l'écriture, des vérités apparaîtraient, des choses apparaîtraient, et j'étais légitime puisque j'étais au bout de cette chaîne. Donc peut-être donc il y avait un côté un peu chamanique, et il y a eu des choses un peu étranges au fil de l'écriture que j'ai découvertes après. Et donc voilà, c'était tout ce travail d'archives. Donc du coup, comme j'ai toujours fait dans mes textes, mais, sauf que les archives cette fois-ci c'était mon histoire personnelle. Et voilà comment ça s'est tissé. Et ensuite, pour chaque personnage, donc je ne les ai pas tous utilisés, entre guillemets, je n'ai pas exploré toutes les vies, les choses se sont... Il y a eu des sortes de jalons avec plus ou moins des dates et qui pouvaient épouser l'époque. Donc, des événements qui pouvaient recouper, par exemple, un personnage par rapport à la Première Guerre mondiale, donc où il y a eu un fait d'armes, donc là, on raconte la Première Guerre mondiale, où il y a la Commune, ou la question des femmes également par rapport au fait d'être fille mère. Donc voilà, donc toute la puissance des femmes aussi de toute cette lignée familiale. Donc, alors ça paraît très désordonné ce que je dis, mais en fait c'était ça, j'avais cette matière absolument énorme. Et comment traduire ça donc par la langue ? Eh bien c'était à chaque fois, pour chaque portrait, chaque personne... Donc chaque personnage, puisqu'il devenait fictif, je leur ai créé des vies potentielles avec des pistes quand même sur lesquelles j'ai pu m'appuyer sur les archives. C'était leur donner une voix, puisque pour moi, chaque personne était un poème, un roman, une voix. Et les choses sont venues assez naturellement. Donc au fil des portraits, la langue est différente pour chaque portrait quasiment. Il peut y avoir une langue à la première personne. Parfois c'est avec le « tu », parfois c'est avec le « il » ou le « elle ». Donc voilà, c'était un monde à chaque fois que j'explorais pour chaque personne.
Et pour se le représenter, c'est quel rythme de chantier ? Est-ce que c'est une immersion chamanique pendant 3 mois à ne faire que ça ? Est-ce que c'est une écriture sur plusieurs années ? Est-ce qu'elle est coupée d'autres choses ? Ou est-ce qu'elle demandait une immersion complète ? ou peut-être documenter et puis laisser une part d'oubli pour que les choses viennent. À quel rythme as-tu travaillé ces différentes étapes en plus, parce que le livre, comme je le disais, a une structure qui est tout de même chronologique.
Je pense que ce livre-là, je le portais depuis très très longtemps, mais je n'arrivais pas à l'écrire. Je ne savais pas vraiment par quel bout prendre les choses. Et c'est né d'une urgence, en fait, je crois. Tu évoquais tout à l'heure la traversée de la maladie. Et c'est un mot qui me... J'ai souvent employé le mot « traverser la maladie ». En fait, on ne la traverse pas, on la vit. Mais je disais souvent « traverser la maladie ». Mais on la vit, donc, du coup, dans sa chair. Et je me suis rattachée à la puissance de celles et ceux qui m'ont précédée. Et j'ai eu envie de m'inscrire quelque part. Donc on parlait de trace, j'entendais ça tout à l'heure, de comment on s'inscrit dans l'existence. Et donc par mes aïeux et mes aïeuls, et donc de me relier à eux. Donc c'était cette énergie de vie, d'où elle venait. Et ça a été la pulsion pour écrire ce texte, qui était déjà en moi. Et l'écriture, elle a été en fait assez... assez rapide finalement. C'est-à-dire que le premier chapitre qui a été comme un flux et qui ouvre en fait tout le texte et qui est un chapitre un peu plus long que les autres. Ensuite, il y a eu je ne savais pas trop où aller et entre-temps est arrivé On est les gens, des textes inédits d'On est les gens. Donc ça a surgi, il a fallu que je m'occupe de ce texte et que je laisse de côté Mississippi et j'y suis revenue et du coup après ça a été sur quelques mois et de manière assez... assez rapide. J'ai eu l'impression d'être saisie par Mississippi dans la mesure où j'avais le sentiment que tout était déjà là, tout était déjà écrit, que j'avais plus qu'à me laisser guider presque. Je parlais de chamanisme tout à l'heure, mais c'est ça. J'étais prise par le texte.
Je cherche les parties, pardon. Il y en a trois ou quatre ?
Quatre parties, ouais. La dernière, c'est...
Il y a Nous désirons le monde ? J'ai Nous désirons la guerre et Nous désirons sans fin. Il doit y en avoir une entre les deux qui a échappé à mes doigts.
Et la dernière, c'est Nous désirons disparaître, qui ne fait qu'un chapitre.
J'aimerais te poser la question de ces quatre titres, aussi bien du nous, alors qui certainement continue le geste du on qu'on a évoqué tout à l'heure, du collectif, mais nous, c'est pas on. Nous, c'est pas on. On, il y a. Voilà, c'est un énonciateur très particulier en plus. Mm-hmm. C'est à la fois collectif, ça peut être vague, ça peut être nous. C'est vraiment, ça fait corps, quoi. Il y a quelque chose de l'ordre de la lutte.
Oui, parce que il y avait aussi cette ambition. Hein, je ne sais pas si j'y parviens, mais comment parler de notre société aujourd'hui, comment on parle de la France, comment on la raconterait. Et comme je suis fascinée par les auteurs américains avec leur capacité à embrasser leur histoire. Et en même temps raconter des destins et des choses assez intimes. Et j'avais envie de faire ça dans ce texte, pouvoir embrasser quelque chose de collectif tout en racontant des destins individuels. Et ce nous, c'est ça, c'est comment on raconte notre pays. Et le nous, c'était le côté lutte sociale, en fait. Quand on raconte la France, on se rend bien compte que c'est un pays qui s'est construit sur les luttes sociales. Ce ne sont pas des choses qu'on nous a données, les avancées sociales, ce sont des gens qui se sont battus pour ça. Donc ce « nous », ça représente ces luttes. Hein.
Et nous n'avons pas parlé de ce titre. J'ai parlé tout de suite du sous-titre et de la geste des ordinaires et qu'on retrouve dans ce « nous », mais Mississippi. Les gens doivent se demander, c'est bien mystérieux cette affaire, parce qu'effectivement, on est plutôt du côté de la Franche-Comté avec un patient au début, enfin je crois, dans l'est de la ouais. France. Et Mississippi, qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Je pense que c'est à la fois narrativement, hein, factuellement, mais pas seulement. Il y a aussi, et ça, beaucoup de gens ont fait ce retour-là, c'est-à-dire que ça dit quelque chose stylistiquement. Enfin, il y a plusieurs intentions dans ce titre.
Mississippi m'est tombé dessus aussi, c'est-à-dire que je cherchais quelque chose qui puisse déclencher un imaginaire, et c'est Mississippi qui est apparu. Et j'adore ce mot, en fait, Mississippi. Enfin, c'est un plaisir à le... Pour moi, les mots, il n'y a pas que le sens, il y a vraiment les sonorités. Et celui-ci est quand même particulier. Et puis, j'ai grandi avec cet imaginaire aussi américain, puisque ma grand-mère est partie en Amérique quand elle était enfant avec sa mère. On n'a jamais su leur histoire. On a pensé qu'un temps, c'était parce que le père était américain, parce qu'elle n'a pas été reconnue, ou une rencontre, ils étaient partis. Elle était blanchisseuse, donc partir en Amérique dans les années 20, ça paraissait assez peu probable. Et donc voilà, et donc j'ai grandi avec cet imaginaire américain. Et quand j'ai fait des recherches sur ce fameux impatient qui ouvre le texte, j'ai découvert sur les recensements de population qu'il avait été noté comme étant militaire. Et sauf que ça paraissait aussi assez étrange puisqu'il n'était sur aucun registre. Donc comment est-ce qu'il était parti ? Donc voilà, il y a eu pas mal de choses qui ont déclenché l'imaginaire. Et donc je l'ai imaginé partir là-bas. Et le Mississippi, c'est un fleuve tellement magnifique. Enfin, c'est quelque chose d'assez métaphorique pour raconter cette histoire, c'est-à-dire un Mississippi, c'est l'impermanence de la vie, ce sont les affluents, c'est à la fois, comme on voit sur le livre, la couverture du livre, c'est le delta du Mississippi, mais retourner, c'est un arbre généalogique presque. Donc voilà, c'est arrivé comme ça, Mississippi. C'est la magie de l'écriture.
Mais il y a encore deux choses qui me viennent à l'esprit, c'est qu'il y a l'idée du fleuve, et en anglais... du flux et du flow en anglais.
Flow.
Quelque chose qui rejoint la poétique particulière de ce livre. Et puis, est-ce qu'ironiquement, il y avait aussi l'idée de roman fleuve, enfin, parce que c'est une formule iconique pour les grandes sagas familiales.
Alors ça c'est venu vraiment après. On m'a renvoyé le roman fleuve et j'avais absolument pas pensé du tout. Non, le fleuve, c'est l'idée aussi de tout ce que ça peut charrier en fait. Et plus ça avance vers la mer, en fait, les sédimentations, tout ce dont nous, on est fait aussi, on est sédimenté par tout ce qui a pu être fait par nos aïeux et nos aïeules, l'histoire sociale, l'histoire familiale, l'inconscient, le conscient, enfin voilà, c'était tout ce que ça pouvait charrier, juste donc, hein, des fleuves.
Et alors, je parlais du style différent pour chaque personnage. Mais à chaque fois, il y a un usage très particulier d'un signe de ponctuation qui m'intéresse, c'est la parenthèse. C'est-à-dire que j'ai eu l'impression qu'une des nouveautés radicales de ce livre-là, hein, notamment dans une production de rentrée littéraire parmi des romans, c'est cet usage-là de la parenthèse, qui est un signe en plus pas très noble en littérature. C'est plutôt un signe de détail, c'est comme les deux points, c'est pas un signe qui a été anobli comme le point virgule, la virgule, le point, enfin on réfléchit sur certains, ou comme le tiré d'incise qui peut être assez snob pour dire les choses très, très vulgairement et très vite. La parenthèse et cet usage-là de la parenthèse qui me semble ne pas être toujours en plus le même usage de la parenthèse, c'est pas juste une parenthèse pour compléter ou pour préciser, c'est parfois une parenthèse qui s'ouvre à l'infini, parfois une parenthèse qui presque ferme. Voilà. D'où c'est venu, à quel moment c'est venu, d'où ça procède et qu'est-ce que ça signifie si...
C'est une forme d'obsession, cette parenthèse. En fait, j'ai déjà utilisée sur d'autres textes auparavant. Mais là, j'avais tellement de choses à dire. J'avais peu de vocabulaire parce que je voulais que les personnages aient justement un usage de la langue... plutôt minime, parce qu'il n'avait pas beaucoup d'outils. Et moi, justement, mes outils, c'était la ponctuation. C'était pouvoir renvoyer un point à un endroit qu'on n'attend pas du tout. C'était utiliser les questions sans mettre de point d'interrogation. Et c'était l'usage de la parenthèse. Et ce texte, en fait, c'est un texte aussi qui est beaucoup... qui travaille beaucoup l'oralité. Et c'est un texte que j'aime lire à voix haute. Et je l'ai écrit à voix haute. Et les parenthèses me permettaient, justement... d'être dans ce flux, comme tu disais, ce flot de paroles. Et la parenthèse pouvait, au niveau du souffle, apporter quelque chose, c'est-à-dire soit freiner le flux, soit faire un peu un pas de côté, soit... En fait, c'est comme une caméra. La parenthèse, à un moment donné, elle se met sur à côté du personnage ou au-dessus du personnage. Voilà, ça permet de tourner un petit peu autour de lui et d'apporter des éléments différents. Et parce que si on prend une seconde d'une existence, il y a tellement de choses à dire. Entre le son, les sensations, les mots, tout ce qui peut se passer. Et donc, comment dire tout ça ? Donc, la parenthèse permet d'ajouter des choses et donc d'avoir des points de vue un petit peu différents.
Et de produire une sensation d'ajouter, donc littéralement des choses sont dites ou énoncées, mais ça produit une sensation physique. dans le rapport à la phrase. C'est pour ça que je relis ça à Mississippi et que je parlais de flow, hein, comme les musiciens, les rappeurs. Ou le... ça produit aussi quelque chose. On revient à la poésie, à la lecture en haute voix. Cette parenthèse-là n'est pas qu'une parenthèse de précision.
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que autant pour tout ce que j'ai pu écrire auparavant, je ne me suis jamais vraiment sentie poète, autant pour Mississippi, je l'ai écrit en tant que poète, et je n'ai jamais eu la sensation d'écrire non plus un roman. Ça a été assez compliqué en fait, ça, pour moi. J'écrivais un texte, un truc, comme je disais souvent, et quand je l'ai proposé à Benoît Viry de la contre-allée, il m'a proposé de le porter comme étant un roman. Je suis pas sûre que ce soit vraiment un roman. Je sais pas en fait ce que j'ai écrit.
Et alors là, sur notre question du réel, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup à au moins deux endroits. Quels sont les retours sur ce texte qui t'est marqué? De gens que tu ne connaîtrais pas lors de rencontres, parce que ce qui arrive avec les histoires familiales en littérature, c'est que souvent les gens s'y retrouvent. Enfin, ils trouvent quelque chose d'eux-mêmes ou pas. Et comme tu as fait beaucoup de rencontres publiques, tu as pu avoir des échanges. Donc, ordre du cadre intime et familial. Et à l'inverse, tu y réponds si tu veux ou pas. Mais bien évidemment, dès lors que l'histoire familiale fait document aussi de ce fait-là, redevient un document par la littérature, ça peut avoir des conséquences sur le réel. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu des retours je recite ce que j'ai pu en discuter avec Anthony Passeron, par exemple, qui a fait un livre documentaire sur sa famille. Ça ne cesse de se réalimenter ensuite, en toute logique, puisque ça redonne une autre existence et que souvent, l'auteur apprend des choses après coup. Donc, aux deux endroits, est-ce qu'il y a un effet retour du réel sur ce livre une fois qu'il circule, comme un roman circule, et donc dans la place publique, et avec des gens qui en discutent, des gens qui le lisent?
Alors, sur les personnes que j'ai pu rencontrer qui avaient lu le livre, ce qui m'a assez étonnée, c'est que beaucoup de gens me disaient qu'ils avaient besoin de le relire, que ça leur avait procuré des belles sensations et qu'ils avaient eu besoin d'y revenir. Évidemment, autrement, des choses plus prosaïques, c'est-à-dire que des personnes ont eu envie de faire leur histoire familiale aussi et donc de redécouvrir des choses sur leur famille ou de s'autoriser à le faire. Par exemple. Et quant à ma famille, pour la première fois, donc je disais tout à l'heure que je suis issue d'un milieu populaire, donc la plupart de mes proches en fait n'ont jamais mis les pieds dans une librairie, et ils sont venus m'entendre dans une librairie porter ce texte. Donc déjà c'était un premier truc énorme pour moi de les voir soutenir ce travail. Et non, en fait, ils ont été plutôt honorés. Oui, de voir que leur famille pouvait aussi faire partie d'une histoire et que c'était des gens ordinaires, mais peut-être pas si ordinaires que ça aussi. Donc les retours étaient plutôt beaux, mais il n'y a pas eu de révélation autre par rapport à ce que j'ai écrit, non.
Mais ce que le texte affirme est peut-être l'ensemble de ton travail à cet endroit-là, je reprends l'expression gens ordinaires, c'est à la fois... tous les gens sont ordinaires et il n'y a pas de gens ordinaires, non?
Oui, c'est ça. Quand je dis que c'est ordinaire, c'est avec des guillemets, finalement, parce que c'est... Non, personne n'est ordinaire. Chaque vie est un roman et un poème.
Est-ce que vous avez lu ce livre? Est-ce que vous le découvrez? Est-ce que vous ne le connaissez pas? Ou que vous le connaissez? Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou une question à poser? Je le fais 5 minutes plutôt que d'habitude, car je suis aussi l'animateur de la rencontre suivante, qui me pose un problème pratique. Donc je me permets, on s'est mis d'accord avec Sophie, elle fera 50-55 minutes. On a tout dit. Ou quelque chose à ajouter de la part de quelqu'un qui l'aurait lu, celui-ci ou les autres travaux de Sophie. Vous pouvez aussi réagir au texte. Je pense qu'on pourrait presque revenir au premier texte, qui a quand même une... grande force de frappe me semble-t-il, les collègues de la BPI sont pas forcément là le dimanche, mais l'expression public empêché, c'est dans la terminologie de vos métiers, et effectivement il est retors, il est intéressant ce texte d'en discuter. Madame, monsieur, je suis dans le noir, madame, pardon.
Merci.
Oui, il y a un personnage qui n'est pas dans la, dans la généalogie, en fait, qui n'est pas dessiné dans la généalogie. C'est le fils Lumière. Et du coup, je voulais savoir pourquoi il n'était pas dans la généalogie, en fait, dans l'arbre généalogique.
Ah bon ?
Non, je crois qu'il n'est pas présent, il me semble.
Ah, alors ?
Une erreur.
Je ne sais pas si c'est...
Non, elle est... Elle est
il y est ?
Elle y est,
je ne l'ai pas vue.
Elle est dans la pliure, peut-être.
Ah,
mais elle y est, oui, oui, tout
d'accord.
À fait.
Je me demandais, en fait, je me disais, c'est bizarre, il n'y est pas. Je l'avais cherché, mais peut-être dans la pliure, alors j'ai pas assez écarté les pages.
Elle y est bien.
Mais puisque le nom a été donné, je ne suis pas passé par ce chemin-là justement pour être dans les ordinaires, mais ça redit un peu ce qu'on vient de dire. S'il y a des gens ordinaires, il n'y en a pas non plus. On finit toujours par trouver sur sa route des croisements étonnants. Et là, cette présence d'une famille illustre, d'un nom illustre de l'histoire, des techniques, de l'art, qui apparaît au milieu du livre, nous trouble, mais a dû aussi être étonnant à avoir déboulé dans les recherches.
Oui, c'est-à-dire quand j'ai fait mes recherches généalogiques, j'ai découvert une ancêtre donc, du côté de ma grand-mère maternelle qui s'appelle Françoise Lumière. Et sur le moment, je n'ai pas du tout capté, j'ai fait aucune relation avec les frères Lumière puisque l'orthographe était différente, c'était IAIR. Et en fait, en faisant des recherches, eh bien non, en fait, c'était bien une aïeule, en fait, Françoise Lumière, qui était la sœur aînée de Claude-Antoine Lumière, le papa des frères Lumière. Et donc, il y a ce truc dans la généalogie où on pourrait dire que Claude-Antoine Lumière sort complètement de l'arbre généalogique, crée son immense famille, je ne sais plus combien d'enfants il a eu, ça, et à cette vie absolument incroyable de génie et de... un peu fou, en fait, hein, de surdoué, je pense. Et puis, avec cette branche familiale qui est très dans l'ombre, finalement, et lui, dans son jeu de mots, mais dans la lumière, finalement. Et donc, ça a été un hasard assez incroyable de tomber sur ce personnage, en fait, qui fait partie de l'arbre généalogique. Mais il n'est pas plus important que les autres, justement, dans Mississippi. J'évoque un portrait, j'écris un portrait de Claude-Antoine Lumière, mais il est au même titre que les autres personnages qui n'ont pas fait de haut fait d'armes, justement, mais qui sont tout aussi importants.
Merci. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Sophie. Vous pouvez retrouver Sophie en dédicace, Sophie Géluca, donc, à côté, pour ces deux livres. Et à suivre, pour quasiment clôturer la partie Beaubourg du festival, puisqu'il y a encore dehors les murs, une performance en petite salle à partir dans 10 minutes, avec Eliza Georgieva pour son nouveau roman qui s'appelle « Épopée des filles de l'Est ». Après la geste des ordinaires, l'épopée des filles de l'Est, et il y a des échos. À certains endroits.
Merci
beaucoup,
merci
Sophie.
Génel,
merci de votre attention.